Bonjour à tous. Nous lisons Philippiens 2, versets 1 à 11. Si donc, il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus, existant en forme de Dieu. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi, aussi, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Suivre Jésus, ensemble, à travers les frontières. C'est le thème choisi pour l'Assemblée réunie de la Conférence Mennonite Mondiale, CMM, en Indonésie, qui était programmée pour cette année et reportée pour l'année prochaine 2022. La rencontre internationale est organisée tous les 6 ans et rassemble les églises mennonites anabaptistes dont nous faisons partie. La prochaine rencontre sera organisée à Semarang, sur l'île de Java, en Indonésie, à quelque part dans l'océan Pacifique entre le sud de la Thaïlande et le nord de l'Australie. La Conférence Mennonite Mondiale nous invite à participer, en ce début d'année 2021, au Dimanche de la Fraternité Anabaptiste Mondiale. Alors, ce matin à Darney, à travers les textes bibliques proposés pour l'événement, nous chercherons à traverser les frontières, à franchir les barrières pour suivre Jésus ensemble et ne pas nous contenter de nos pratiques spirituelles individualistes, centrées sur nous-mêmes et notre relation personnelle avec Dieu. Suivre Jésus ensemble à travers les frontières, d'après la lettre de Paul aux Philippiens que nous avons lue en introduction. Philippe est une ville située au nord-est de la Grèce actuelle, mais dont il n'existe plus que des traces archéologiques suite à un tremblement de terre au début du 7e siècle, suivi d'une succession de conquêtes militaires au fil du temps qui pour n'être jamais reconstruite. L'église chrétienne de Philippe est la première église chrétienne sur le sol européen. Elle est issue du travail missionnaire de l'apôtre Paul et de ses compagnons lors de son 2e voyage pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus aux nations de la terre. Lorsque Paul écrit cette lettre aux Philippiens, il est emprisonné en attendant d'être jugé. Traditionnellement, on suppose que Paul était détenu à Rome. Il avait fait appel à César, empereur romain à Rome, pour être jugé suite à son arrestation consécutive à une émeute déclenchée par des opposants au message de l'évangile de Jésus-Christ à Jérusalem. En prison, Paul vient d'avoir la visite d'Épaphrodite, envoyée par l'église de Philippe, pour remettre en main propre de quoi subvenir matériellement aux besoins de l'apôtre, prisonnier, et pour donner des nouvelles de l'église. Déjà, dans ce préliminaire, on perçoit la solidarité des membres de l'église, suivre Jésus ensemble. Et la mobilité géographique, le passage des frontières, même si toute cette région du monde de l'époque était sous domination romaine, avec une paix apparente imposée et défendue avec beaucoup de force et de violence. Dans sa lettre aux Philippiens, Paul remercie avant tout pour la visite d'Épaphrodite et pour le soutien matériel qui lui a été transmis. Malheureusement, Épaphrodite, qui devait rester auprès de Paul et à son service, est tombé gravement malade, et Paul a jugé plus prudent de le renvoyer à Philippe pour sa convalescence en le chargeant de porter cette lettre que nous lisons encore aujourd'hui. S'il y a quelque encouragement dans le Christ, s'il y a quelque réconfort de l'amour, s'il y a quelque communion de l'esprit, s'il y a quelque tendresse et quelque magnanimité, comblez ma joie en étant bien d'accord Ayez un même amour, une même âme, une seule pensée. Chapitre 2, les versets 1 et 2 dans la Nouvelle Bible Seconde. En Christ, nous trouvons la consolation, l'encouragement, l'exhortation. Nous trouvons le réconfort de l'amour de Dieu pour les humains, le réconfort de l'amour entre les humains. En Christ, nous trouvons la compassion, la tendresse, la miséricorde. Suivre Jésus, c'est être attentif à tous les aspects de son enseignement. Paul est emprisonné en attente de son jugement. Il espère être relaxé et libéré pour reprendre son travail d'édification de ces nouvelles communautés chrétiennes. Mais il est prêt à accepter une condamnation et son exécution, parce qu'il a l'assurance de son salut. Philippiens 1, verset 19. Pour Paul, la communion d'esprit devrait produire l'unité parmi les membres de l'église de Philippe, et il affirme que sa joie sera parfaite si un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée émergeait de la vie de l'église. Paul éprouvait de la joie pour la foi des Philippiens, chapitre 1, verset 4, et il leur demande de combler cette joie en travaillant pour l'unité de la communauté. Il ne s'agit pas de devenir ou d'être tous pareils, mais de voir les différences s'harmoniser les unes avec les autres. Le modèle de l'unité biblique est celui de la Pentecôte. Chacun entend la parole dans sa langue maternelle, c'est-à-dire sa langue la plus intime. Chacun est pleinement ce qu'il est en Christ, et la communion de l'Esprit fait l'unité. L'unité n'est pas une quête d'uniformité. Elle est donnée lorsque chacun est pleinement en Christ et dans l'Esprit. Au verset 15 et 16 du chapitre 3, Paul nous éclaire sur cette unité. « Nous tous donc, qui sommes des hommes faits ou accomplis, ayons cette même pensée, et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu nous éclairera là-dessus. Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. » En d'autres mots, lorsque surviennent les divergences, il faut continuer à marcher ensemble et au bout d'un moment, il arrive qu'elles se trouvent dépassées. Suivre Jésus ensemble, avancer dans la foi, progresser dans la sanctification, grandir en Christ, c'est la raison d'être de l'Église pour être fidèle au plan de Dieu et, génération après génération, être une source de bénédiction pour la communauté humaine. Suivre Jésus ensemble à travers les frontières. Au verset 5 à 7 du chapitre 2, nous lisons « Ayez entre vous les dispositions qui sont en Jésus-Christ. Lui qui était vraiment divin, il ne s'est pas prévalu d'un rang d'égalité avec Dieu, mais il s'est vidé de lui-même en se faisant vraiment esclave, en devenant semblable aux humains, reconnu à son aspect comme humain. » Jésus a quitté le ciel auprès de Dieu, le Père, et franchi sans hésiter cette frontière immatérielle entre le ciel infini et éternel et notre planète Terre figée dans l'espace et le temps qui s'écoule inexorablement. Jésus montre l'exemple, rejoindre les humains, serviteur obéissant jusqu'à la mort sur la croix, pour nous ouvrir une perspective vers l'éternité dans la présence de Dieu. Le Seigneur Jésus s'est dépouillé et est devenu humain. Il a donné l'exemple. Il est Dieu et il traverse la frontière qui sépare Dieu de l'humanité, l'éternel du matériel. Tout au long de sa vie terrestre, Jésus a franchi les frontières, explosé les barrières fabriquées par la religion, par la culture, par la tradition, par nos peurs et notre besoin de sécurité et de confort. Un autre texte proposé pour la méditation de ce jour se trouve dans l'Évangile de Jean, chapitre 4, des versets 1 à 42. Permettez-moi de résumer le passage à ma façon. N'hésitez pas à relire ce texte que vous connaissez probablement. Entre la Judée et la Galilée, Jésus traverse la Samarie, considérée comme un territoire étranger et hostile, malgré une histoire ancienne commune. Il passe à proximité d'un lieu chargé d'histoire. Le puits de Jacob, en plein midi. Il se repose à proximité de ce point d'eau et rencontre une femme samaritaine qui vient puiser de l'eau. La conversation s'engage sur l'eau, la vie, la soif. Jésus lui parle de son mari, aborde sa vie intime, ses déboires conjugaux, pour finalement aborder le cœur des divergences entre les Judéens et les Samaritains, l'endroit où Dieu doit être adoré. Jérusalem pour les uns, le mont Garizim pour les autres. Et voilà qu'en quelques minutes de conversation rapportée par Jean, Jésus franchit toutes les frontières, brise toutes les barrières. La première, la frontière territoriale. Passer dans le pays ennemi, ne pas refuser la rencontre avec celle qui est différente. La barrière raciale. Engager la conversation avec celle qui est de culture différente. Une autre barrière brisée est la barrière du genre. L'homme, Jésus, en principe, ne doit pas s'adresser à la femme qui vient puiser et la femme n'est pas censée engager la conversation avec cet homme étranger. Jésus a montré tout au long de son ministère que femme ou homme ont exactement la même valeur aux yeux du Créateur. Il n'y a pas d'autorité de l'un sur l'autre, validée par l'enseignement de Jésus. L'humain a été créé homme et femme avec la même capacité d'entrer en dialogue avec Jésus et en contact avec Dieu. Lorsque Jésus demande à la femme d'appeler son mari et que la femme lui répond qu'elle n'en a pas, Jésus ne stoppe pas la conversation. Au contraire, l'échange verbal va au plus profond de ce qui caractérise l'être humain. Sa relation avec l'autre, en l'occurrence les cinq maris, et sa relation avec Dieu et la relativité des pratiques religieuses apprises au sujet de l'endroit qui convenait à l'adoration. Au cours de son ministère terrestre, Jésus n'a pas arrêté de briser les barrières érigées par tous ceux qui prennent plaisir à exercer leur pouvoir, qu'ils soient religieux ou politiques. Dans sa rencontre avec Zachée, le publicain, le collecteur d'impôts pour l'occupant romain, il brise la barrière de classe sociale et économique. Il partage le repas d'un homme qu'il n'est même pas censé fréquenter. Lorsque Jésus répond aux pharisiens sur le paiement de l'impôt à l'occupant, Jésus demande d'avoir une pièce de monnaie frappée à l'effigie de l'empereur romain et donne cette réponse sans aucune ambiguïté. « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Jésus dénonce ce système construit par les hommes qui affirment que le matériel et le spirituel sont interdépendants. Jésus signifie par cette réponse que l'économie est un système inventé et construit par les humains et ne fait pas partie de ce que Dieu a créé pour les hommes. Lorsque Jésus touche et guérit des lépreux, il brise les barrières sanitaires, il abolit la distanciation physique, il rompt l'isolement de ceux que la société rejette. Traverser les frontières, franchir les barrières, c'est pénétrer dans l'espace de l'autre et, dans le même temps, faire de la place pour que l'autre puisse pénétrer dans le nôtre. L'Esprit du Christ nous invite à prendre l'initiative de franchir ces murs de séparation en abandonnant nos ambitions et nos intérêts pour rencontrer les autres. Jésus traverse les murs de séparation que sont le racisme, l'ethnocentrisme, le fait de voir le monde et sa diversité avec nos préjugés liés à la culture de notre communauté d'origine, les divisions religieuses et les rôles de genre, hommes, femmes et autres. Jésus est le Messie de tous, aucun mur de division ou barrière ne peut limiter Jésus. La bonne nouvelle de Jésus concerne l'amour de Dieu pour les humains et pour tout le monde, de toutes les cultures, de toutes les origines, dans toutes les langues. Nous avons beaucoup à apprendre de la façon dont l'amour de Dieu est vécu par différentes personnes au-delà des barrières qui nous divisent habituellement. Nous avons beaucoup à apprendre en suivant Jésus pour franchir ces barrières. Pour illustrer le propos, je vous propose d'écouter ce témoignage de projet d'église à Semarang en Indonésie. Une église de paix. L'Indonésie est le pays au monde qui compte le plus grand nombre de musulmans. Il y a 3 unions d'églises anabaptistes en Indonésie, totalisant environ 110 000 membres adultes. L'une d'elles est Gereja, la plus ancienne église du synode national anabaptiste. Les premiers baptêmes ayant eu lieu en 1854. Les chrétiens représentent une très petite minorité en Indonésie, environ 10% de la population totale. À certaines époques et dans certains endroits, des églises chrétiennes dans certaines régions d'Indonésie ont été victimes de violences. Vers 2009, l'église de Jepara a décidé d'être une église de paix dans la ville. Dans le contexte de la pluralité religieuse à Jepara, proclamer la paix impliquait de construire de bonnes relations avec des frères et sœurs d'autres religions. Parmi les 1,1 million d'habitants du district de Jepara, la grande majorité est musulmane. L'Église est consciente que la paix n'est pas simplement l'absence de conflits. La paix, ce sont les bonnes relations, des relations de confiance mutuelle, malgré les différences. C'est pour cela que nous essayons d'établir des relations avec d'autres organisations religieuses, à savoir Universitas Islam Nadlatul Ulama Jepara, NU. Cette université se trouve à côté de l'église, à seulement 500 mètres environ. Mais nous n'avions jamais collaboré. Il n'y avait pas de friction particulière, mais il n'y avait pas non plus de contact. Des contacts occasionnels ont eu lieu entre les dirigeants, mais pas au niveau de la base. Nous voulons que la paix ne soit pas seulement un point de l'ordre du jour des grandes personnalités dans leurs réunions, mais qu'elle devienne également une interaction quotidienne entre les gens. Pour cette raison, nous avons fait une démarche personnelle auprès du chef de l'Institut indonésien des arts culturels musulmans, une institution artistique et culturelle sous la tutelle de l'université. Le but était d'être en contact et de partager des réflexions sur la paix. Nous avons décidé d'organiser un spectacle de musique traditionnel sur la terrasse du bâtiment de l'université pour faciliter les discussions entre les gens. Nous avons délibérément utilisé une voie culturelle parce que l'art et la culture rapprochent les gens. Nous voulions que les gens se rencontrent et communiquent naturellement les uns avec les autres, mais apparemment, seuls les gens de l'église sont venus à ce premier événement. Les musulmans n'ont pas voulu y assister, cela confirme qu'il y a de la méfiance et des visions stéréotypées coriaces. Même le président de l'université a reçu une réprimande pour avoir invité des chrétiens dans un bâtiment de l'université. Néanmoins, certains ont été attirés par cette idée et ont organisé une autre réunion à l'occasion d'une fête indonésienne dans le bâtiment de l'université. Plusieurs fanfares de l'église ont animé la célébration. Cette fois, de nombreuses personnes sont venues. Et l'attention médiatique a été très positive, car c'était un événement complètement inédit. En outre, l'Église organise la Journée internationale de la paix tous les 21 septembre devant le bâtiment de l'Église, en présentant des performances artistiques et culturelles de diverses religions, ainsi que des discours de paix de plusieurs groupes. Notre objectif est toujours le même, à savoir réunir les musulmans et les chrétiens de manière informelle pour qu'ils interagissent entre eux. La collaboration s'est poursuivie en impliquant les femmes et les enfants. Par exemple, des femmes de l'église ont aidé à préparer de l'aide alimentaire destinée aux populations touchées par la pandémie, avec des femmes musulmanes dans le bâtiment de l'université. Les enfants participent également à la célébration de la Journée internationale de la paix. Les jeunes sont également impliqués dans des activités de paix. Aujourd'hui, la relation entre la paroisse et les musulmans de Jepara est très bonne. À l'église, nous essayons également d'avoir de bonnes relations avec des collègues de tradition islamique soufie et chiite, qui sont des groupes plus petits au sein de la communauté musulmane. Nous avons organisé plusieurs camps d'amitié entre différentes confessions pour les jeunes. Il y a quelque temps, dans une classe de catéchisme à l'église, nous avons invité des confrères musulmans à parler de Jésus-Christ selon la perspective islamique. C'est très important que la paroisse puisse les écouter directement et apprendre. C'est un indicateur de respect mutuel en tant qu'amis et parents. Pour établir des relations entre les religions, la confiance mutuelle, l'acceptation mutuelle et la participation mutuelle sont très importantes. Les relations sont davantage axées sur des amitiés que sur les relations institutionnelles formelles. À travers ces amitiés personnelles, il est possible d'apprendre les uns des autres humblement, d'avoir le courage de franchir les barrières coriaces de la méfiance. Il y a certes le risque d'être mal compris, mais nous ne pourrons jamais traverser les frontières si nous n'avons pas le courage de faire le premier pas. La preuve de cette confiance mutuelle a été apportée lorsque le pasteur Danang Christiawan a été consacré pasteur de Jepara en 2013. Les amis de la diversité culturelle de Gépara sont venus et ont partagé des offrandes sous la forme d'une danse soufie, de poèmes prononcés par l'homme politique Bouddhi Arjuna et d'un chant chrétien de Thésée chanté par un étudiant en théologie, accompagné de violons joués par des musulmans et du pasteur d'une église charismatique de Gépara au piano. Tout cela s'est produit spontanément et ce fut une surprise magnifique. De même, lorsque les frères et sœurs du pensionnat islamique ont organisé une grande récitation, ils ont également invité des personnes de l'église à qui on a même donné l'opportunité d'apporter un message. La même chose s'est produite avec des musulmans chiites qui sont souvent discriminés en Indonésie. Le dialogue, les visites et les discussions sur la paix continuent de se développer. Lorsque nous nous rencontrons, mangeons ensemble, jouons ensemble et construisons un pont entre les différentes communautés religieuses, nous sommes étonnés de reconnaître le visage de Dieu dans nos frères et sœurs en humanité. Cela se passe actuellement à l'autre bout du monde. Quel contraste avec la propagande habituelle sur l'Église persécutée. Pour conclure, je vais prendre la conclusion du pasteur Danang Christiawan de cette église de Gépara. C'est un appel à aimer et une prière de repentance. Frères et sœurs bien-aimés, être disciple de Jésus-Christ signifie marcher derrière lui et suivre son exemple, ses commandements. Le Seigneur Jésus-Christ nous donne un grand commandement, le commandement d'aimer. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est là le premier commandement. Un second est aussi important. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Merci Père pour ta grâce qui nous a appelés en tant que disciples à nous rassembler pour célébrer notre amour, car nous faisons partie de ta famille. Merci parce que tu nous appelles. Tu nous rappelles ton appel à être tes disciples, à t'aimer de tout notre cœur et à aimer notre prochain. Nous savons qu'il faudra surmonter beaucoup de nos limites et de nos défauts pour accomplir ta volonté, pour t'aimer et aimer notre prochain. L'égoïsme, la peur, notre réticence à franchir les frontières qui nous séparent. Alors nous t'implorons, aime-nous et encourage-nous à continuer de t'aimer et d'aimer notre prochain par la puissance de ton esprit. Amen.